bienvenue à chacun, à chacune. Vous tous et toutes qui êtes chargés et qui avez tant besoin de repos. Vous tous et toutes qui pleurez et qui avez besoin de réconfort et de consolation. Vous tous et toutes qui échouez et désirez des forces nouvelles. Vous tous et toutes qui vous battez contre des circonstances adverses qui peut-être vous submergent. Vous tous et toutes qui péchez et qui avez besoin d'un sauveur, l'Église évangélique de Meyrin vous ouvre tout grand ses portes avec une très cordiale bienvenue que vous adresse Jésus lui-même, l'ami des pécheurs. Bienvenue pour ce culte.
Merci beaucoup Philippe. Je vous invite à vous lever, à chanter avec nous. On va proclamer quelques chants, quelques paroles de chant. On veut vraiment vivre un temps de louange où vous êtes libre. Libre de le chanter, libre de le proclamer. Libre de ne pas chanter, libre de prier seul, de prier avec votre voisin. On veut vraiment se concentrer sur Dieu ce matin parce que Jésus est mort pour que nous puissions vivre.
Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Mon roi, uni à seul des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Ton roi, uni à seul des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur.
Thank you.
si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit : ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce matin, j'avais envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé la semaine passée. Je vivais une vie que je contrôlais entièrement. Je passais tout mon temps libre à faire des choses que j'aimais, à mes passions. Entre autres... le skateboard. Et tout à coup, paf, tout s'efface, rien n'est plus possible, on a passé des appels, on doit tout annuler. Et j'ai pas pris ça comme une punition divine ou la volonté de Dieu. Peut-être que ça l'est, je n'en sais rien. Une punition qui aurait été parce que je passe pas de temps assez avec lui ou que je passe tout mon temps libre à faire autre chose que simplement me mettre à genoux. Mais ce que je sais, c'est que ça m'a fait réfléchir et que j'en suis arrivé à un point où j'ai remercié Dieu pour cette blessure. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, il ne me restait plus rien. Je me suis cassé le bras droit. Je ne peux plus faire de sport, je ne peux plus faire de guitare, je ne peux plus écrire, je ne peux quasiment plus travailler. Et la seule chose qui me reste, c'est que je peux me mettre à genoux et lire ma Bible. Et ça m'a rendu joyeuse. Quand je suis faible, c'est alors qu'il est fort, qu'il me rappelle que lorsque tout s'efface, lorsque rien n'est plus possible, c'est lui qui reste la seule chose qui est constante et qui devrait être au centre de mon attention dans ma vie. Et par rapport à ce verset-là, je vous invite à réfléchir avec le chant suivant, qui est un chant nouveau, qui reprend justement ce verset. Ma joie est dans la faiblesse, parce que quand je suis faible, alors je suis fort.
Je me
repose en toi. Tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi.
Dans la faiblesse, quand je
lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse par l'édification, pour l'édification. 1 Corinthiens 14 nous encourage à nous édifier les uns les autres. Alors je vous propose qu'on prenne un moment pour écouter Dieu et pour partager ce qu'il veut nous dire et ce qu'il veut dire à l'Église. Philippe passera le micro pour que ceux qui sont dans le streaming puissent aussi recevoir ce que vous allez partager.
Privilège de pouvoir nous tenir devant toi en vertu de ta grâce. Et ensemble, nous voulons te dire merci. Merci de nous parler, merci de nous rencontrer, merci de nous relever. Tu es notre Dieu et nous plions le genou devant toi.
Seigneur, merci parce que tu as décidé de parler aux petits, aux faibles, à ceux qui n'ont pas de force, et de te révéler avec eux pour le peuple de Dieu. Amen.
Merci Seigneur, tu dis que tu te réjouis au milieu des louanges de ton peuple. Et ce matin, c'est vraiment ce que nous voulons Seigneur, c'est réjouir ton cœur. Nous sommes dans la joie parce que tu es au milieu de nous. Merci pour la famille que nous formons. Je bénis mes frères et sœurs dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur pour les circonstances de ma vie. Il y a 51 ans, j'étais à l'hôpital à la pédiatrie pour une méningite. Merci pour tout, parce que ce n'est pas une honte d'avoir des faiblesses. Amen.
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité et tout ton amour. Dans ta grâce, donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité. Amen.
Ce matin, Seigneur, nous voulons particulièrement penser à nos frères et sœurs qui sont très faibles, persécutés parmi les nations, toutes ces églises qui doivent se cacher pour te louer et t'adorer. Que dans cette faiblesse apparente, Seigneur, ils puissent trouver la force en toi et surtout, comme il a été dit, que ta joie les accompagne dans leur faiblesse, s'il te plaît. Nous les bénissons tous en ton nom. Amen.
Père Céleste, je te remercie pour le salut, ce salut que nous avons suite à la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants, pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez.
Seigneur notre Dieu, dans notre faiblesse, tu viens nous rencontrer, tu viens jusqu'à nous, tu nous transformes par ta présence. Nous nous sentons, Seigneur, pleinement accueillis, pleinement reconnus, pleinement vivants en toi, Jésus. Merci pour ta grâce envers nous, qui nous renouvelle ce matin encore, dans notre faiblesse. Amen.
Heureusement que tu es là, Seigneur. Heureusement que tu es là. Seigneur, j'aimerais te remettre Philippe Anchaud. J'aimerais te remettre ces paroles, que tu puisses le bénir et que tu puisses vraiment parler à travers lui pour que on puisse recevoir ce que toi tu veux nous donner. Amen.
Amen. Merci. L'évangile de Jean, ou comme vous le verrez dans certaines Bibles, l'évangile selon Jean. En fait, il y a un seul évangile. L'évangile Evangelion, c'est la bonne nouvelle. Il y a une seule bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais cette bonne nouvelle, elle est racontée par quatre auteurs différents. Quatre auteurs complémentaires. Nous, ce matin, nous allons parler quelques instants de l'évangile de Jean. C'est l'œuvre du dernier apôtre, le dernier témoin oculaire. C'est l'œuvre d'un apôtre solidement ancré dans le premier siècle de notre ère. Voici le premier exemplaire complet qui existe de l'évangile de Jean. On le situe vers l'an 180 de notre ère. C'est le papyrus P66 que vous pouvez aller admirer à deux pas d'ici, sur l'autre rive, à la fondation Bodmer. Premier exemplaire complet de l'évangile de Jean qui existe et que l'on situe donc vers l'an 180 de l'ère chrétienne. Et voici le fragment le plus ancien qui subsiste. Ce fragment, il date, lui, de l'an 115 à 120 de l'ère chrétienne. Bien sûr, les deux images que nous venons de voir, ce ne sont là que des copies du premier évangile de Jean, ou des copies de copies de l'évangile de Jean. Et je pense que vous pouvez voir au travers de cette image, sinon aller à la fondation Bodmer. Mais vous verrez à quel point le support matériel est fragile. C'est du papyrus. Et si vous vous rendez à la fondation Bodmer, il vous faudra maintes précautions pour approcher ce papyrus historique, l'évangile de Jean. Mais voilà que la comparaison des différentes copies permettent aux spécialistes de dire que l'évangile de Jean que nous lisons aujourd'hui est un évangile absolument fiable. Fiable. Les rares fois où on peut avoir une forme de doute en lisant l'évangile de Jean, eh bien, il y a des notes en bas de page qui viennent nous expliciter ce qui semble un peu discutable. Mais ce que vous avez entre les mains ou sous les yeux, c'est réellement, réellement ce que l'apôtre Jean a écrit. Et il l'a écrit dans les années 90 de notre ère, 0090. À ce moment-là, l'apôtre Jean est âgé. Les autres apôtres sont très probablement morts. Il y a des églises dans les grandes villes de l'Empire romain, en Italie, En Égypte, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie ou la Grèce. Et puis, il y a des églises un peu plus loin, à l'est, chez les Parthes, chez les Mèdes, et des premières églises en Inde. Les trois premiers évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont déjà été publiés il y a quelques années. Et dans les années 90, 0090, quand l'apôtre Jean édite son évangile, eh bien les autres évangiles circulent déjà dans les églises et même au-delà. Le dernier apôtre rassemble donc ses forces pour écrire un évangile qui ne sera pas tout à fait comme les autres. Il ne racontera pas tout, l'apôtre Jean. Mais ce sera un message d'annonce de la bonne nouvelle. Ce sera un message pour ses compatriotes juifs, un message pour le monde grec, un message qui va revisiter en profondeur quelques faits marquants de la vie de Jésus-Christ. Parce que Jean, il veut amener ses lecteurs, ses premiers lecteurs comme ses derniers lecteurs, à reconnaître que Jésus est le Messie. À reconnaître que Jésus est le Christ, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Parce que Jean veut que ses premiers lecteurs, en l'an 0090, comme ses derniers lecteurs, en l'an 2021, pour ce qu'il en reste, il veut que ses lecteurs et que ses lectrices aient la vie éternelle. Alors, Jean va se focaliser sur 7 signes miraculeux et sur quelques entretiens significatifs. Par rapport aux 3 autres évangiles, Jean, il garde surtout les débuts, avec Jean le Baptiste, son homonyme. Il garde la multiplication des pains, et puis il consacre beaucoup de temps aux circonstances de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais le Jésus dont il parle, c'est le même que celui dont parlent ses 3 collègues. C'est juste son éclairage qui est différent, comme quand on a 4 témoins d'une même scène. Vous n'entendez jamais tout à fait la même chose. Il y a des éclairages différents. Mais avant de raconter ces choses, Jean se donne la peine de faire une introduction à son évangile. Une introduction que nous appelons traditionnellement le prologue de Jean. 18 versets qui constituent peut-être le sommet de tout le Nouveau Testament. Un bijou absolu sur le plan littéraire, un monument de la théologie et une révélation sans égale. Nous allons lire ces versets, non pas sur le papyrus que j'ai affiché tout à l'heure, mais dans une traduction française. Et j'ai choisi celle de la Bible en français courant. Si jamais cette lecture vous change un peu de vos habitudes, eh bien, laissez-vous surprendre. Jean 1, les versets 1 à 18. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde. Et le monde est venu à l'existence par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique plein du don de la vérité reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Des choses un peu étranges hein, dans ce texte. Déjà, la parole de Dieu, c'est un titre un peu bizarre. Pour le lecteur juif, il fait penser au premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu crée donc les cieux et la terre. Voilà quelque chose qui me dépasse. Voilà quelque chose qui m'invite à l'admiration, à l'adoration, même si je ne comprends pas tout. Et Jean ajoute, tout est venu à l'existence par elle. Et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. Autrement dit, on ne peut pas concevoir Dieu sans pensée, sans intelligence, sans parole. On ne peut pas concevoir Dieu sans force décisive, sans émanation, sans émulation. Dieu et sa parole ne font qu'un. Voilà ce que se dit un lecteur juif. On me parle de la parole de Dieu qui agit dans le monde. Dieu et sa parole font un. Le lecteur grec, lui, s'il a fait un peu de philo, ce qui était assez courant chez les Grecs, pense que derrière l'univers visible, il y a une sorte de raison suprême, une sagesse, un logos, une parole, une énergie. Comment est-ce que cette pure sagesse a pu donner naissance à un univers matériel, alors là, mystère. Pour le lecteur grec lambda, le monde, c'est peut-être l'œuvre d'un dieu inférieur. Vous savez, d'un dieu un peu incompétent, d'un dieu hésitant, un peu maladroit, qui se serait loupé quand il a lancé les choses. Et nous, derrière ce que l'on lit, on voit qu'il y a là une parole éternelle. Pour nous, à des siècles de distance, on parle d'un principe qui est à la base de tout. Un principe qui est au commencement de tout. Le premier mot, c'est Dieu qui le tient et qui ne le lâche jamais. Au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement, écrit Jean. Et là, ça se corse un peu. Parce que si la parole est avec Dieu. La parole est avec Dieu. Ben, ils sont deux. Mais si la parole est Dieu, ils sont un. Parce qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas deux sources de vie, il n'y en a qu'une. Dieu et sa parole font un. Dieu crée, Dieu donne la vie, Dieu éclaire les hommes et il le fait par sa parole. La parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Et plus encore, cette parole est une personne. Cette parole, c'est Jésus-Christ, verset 14. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. La parole, c'est une personne. Pas des mots, pas des lettres, pas des interlignes, pas des versions. Une personne. Nous n'essayons pas de comprendre cela d'une façon mathématique. Nous accueillons une part de mystère. Nous reconnaissons simplement qu'il y a une grandeur en Dieu, une pluralité en Dieu, une unité en Dieu que Jésus-Christ nous fait connaître. Celui qui est la parole devient homme. Maintenant, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Pour les Juifs et les Grecs, les premiers mots de l'Évangile, c'est une sorte de spéculation théologique ou philosophique. C'est de la pure théorie. C'est un truc un peu rentré pour les gratte-papiers. Mais Jean l'évangéliste nous sort de là. Il nous sort de la théorie. Parce qu'il nous parle, lui, d'un autre Jean, Jean le Baptiste, versets 6 à 8. Un homme est venu, dit-il, envoyé de Dieu, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Jean le Baptiste, ce n'est pas la lumière, mais il doit rendre témoignage à celui qui est la lumière. Et Jean le Baptiste a pointé alors vers un homme plus jeune que lui, de peu, mais qui en même temps existait avant lui. Voilà la nouvelle étourdissante. La parole éternelle est devenue un être humain. Celui qui est la parole a habité parmi les hommes. Les hommes l'ont vu, l'ont entendu, l'ont touché. À un point sacré de l'histoire, l'éternité a rejoint l'histoire des hommes. Dieu en personne est venu habiter parmi nous. Et il l'a fait en commençant par rapetisser à l'état d'embryon, de fœtus, de nouveau-né, de nourrisson, d'un enfant. Un enfant. Une naissance. Explosion de joie sur la terre. Pas du tout. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le monde ne l'a pas reconnu, ne l'a pas accueilli. Incompréhension des Juifs, incompréhension des Grecs. Pour les Grecs, la parole éternelle ne peut pas s'abaisser. La parole éternelle ne peut pas se souiller. Elle ne peut pas se compromettre avec une matière terrestre. Elle ne peut pas devenir être humain. À la limite, elle peut essayer d'emprunter le corps d'un autre, de le posséder, puis de l'abandonner. Mais devenir homme, vrai homme, ça, non. Jamais. Et pour les Juifs, la parole de Dieu pourrait bien paraître sur la terre, mais certainement pas dans la faiblesse, certainement pas dans la souffrance, certainement pas dans la mort. Si la parole de Dieu vient, Alors elle vient pour être victorieuse, pour tout renverser, pour gouverner le monde. Seulement voilà, celui qui est la parole de Dieu, qui existait depuis le commencement des choses, celui qui a donné le ton depuis le départ de l'histoire, celui-là est venu sur la terre, chez son peuple, pour être rejeté. Rejeté, mais pas par tous. Pas par tous. Certains l'ont cru, certains l'ont reçu. Et pour cela, pour celle-là, un miracle s'est produit. Voyez, ils sont devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas la naissance dans une famille humaine qui fait ça. Ce n'est même pas la naissance au sein d'une église qui fait ça. Ce n'est certainement pas la naissance au sein d'une église qui fait ça. Ce n'est pas la volonté humaine qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est un miracle que Dieu fait et que Dieu fait seul. Nous l'appelons avec nos mots, nos faibles mots, comme on l'a chanté, nos faibles mots, nous l'appelons la nouvelle naissance. Quelque chose qui dit la beauté, la nouveauté, le mystère, le radicalement tout neuf qui sent bon, la nouvelle naissance. Je vais bientôt avoir 50 ans. Eh ouais. J'ai été éduqué dans une famille chrétienne. J'ai été baptisé enfant. Mais je n'ai compris la nouvelle naissance que bien plus tard, en quittant l'enfance pour entrer progressivement dans l'âge adulte. Et là, je me suis émerveillé de ce que des choses tellement mystérieuses dont certains m'avaient parlé depuis que j'étais enfant, ces choses mystérieuses devenaient tout d'un coup réelles pour moi. De quelle façon ? Par une acceptation personnelle et consciente de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu. Autour de nous, et peut-être parmi nous ce matin, il y a beaucoup de gens qui croient sans croire, qui pensent qu'il y a autre chose, bien sûr, un Dieu, un destin, une espérance, une énergie, un tout autre, mais qui, de façon étrange, ne semble jamais vraiment vouloir connaître Dieu. Ne cherche pas à lui obéir, qui essaie de s'en sortir dans la vie en appelant Dieu au secours de temps en temps, quand on est un peu dépassé, mon Dieu. Certains portent un gris-gris, d'autres une patte de lapin. Il y en a même qui mettent des fers à cheval dans leur voiture, ou un rosaire peut-être. Je sais que c'est de cette façon-là que certains disent croire en Dieu, avec un fer à cheval. Ils croient en Dieu sans l'aimer. Ils croient en Dieu sans s'engager. Ils croient en Dieu sans respecter les commandements de Dieu, sans accepter son autorité, sa grandeur, sa sainteté. En fait, ils veulent marcher seuls, pour eux seuls, par eux seuls. Mais ce n'est pas de cette foi-là que nous pouvons naître de nouveau. Regardez comment l'apôtre Jean présente la foi en Christ. Il s'agit de l'accueillir, Jésus, de l'accueillir dans un monde qui lui est hostile, qui se moque. Il s'agit de se démarquer du monde en l'accueillant, lui. Il s'agit de le reconnaître pour qui il est vraiment. lumière qui donne la vie, Créateur, parole éternelle de Dieu, vérité, Fils éternel et glorieux, vrai Dieu et vrai homme. Il s'agit de recevoir sa grâce, la foi comme la réception d'une grâce. C'est quoi la grâce ? Sur le plan juridique, une grâce, c'est une remise de peine. Une grâce ne peut être accordée qu'à des personnes reconnues coupables. Et sur le plan biblique, ben c'est bien cela, une remise de peine. Mais c'est aussi, c'est surtout l'expression d'un amour immérité, durable, un amour qui pardonne au coupable et qui le transforme. Dieu qui nous donne sa plus grande bénédiction, là où nous aurions mérité sa plus grande condamnation. S'adressant à ses lecteurs juifs, l'apôtre Jean dit au verset 17 que Moïse a donné la loi de Dieu. Vous savez, cette loi qu'on trouve dans les 5 premiers livres de la Bible. Et la loi de Dieu, c'est bien. C'est plutôt important, la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu, elle est incomplète. Elle est profondément incomplète. Sur 2 points, au moins. D'abord, elle est incomplète sur le plan de la vérité. Parce que la loi de Moïse ne dit pas tout. Après la loi de Moïse, il y a eu besoin de quantité de révélations complémentaires. Et surtout, surtout, il y a eu besoin de la révélation suprême et incontournable de Jésus-Christ, plénitude de vérité, dit Jean. Et puis la loi de Moïse, elle est incomplète aussi sur le plan du salut. Bien sûr qu'elle nous dit ce que Dieu veut. Bien sûr qu'elle nous aide à nous repérer en montrant ce qu'est le bien, en montrant ce qu'est le mal. Bien sûr qu'elle fixe un cadre général, bien sûr. Elle a aidé les Israélites à s'organiser en tant que peuple et puis à s'approcher de Dieu. Mais la loi de Moïse ne pouvait rien faire pour quelqu'un qui ne tenait pas la route, qui ne rentrait pas dans le cadre. Elle ne pouvait rien faire pour quelqu'un qui péchait, pour quelqu'un qui oubliait le plus petit des commandements. J'en suis. Elle proposait bien sûr des sacrifices pour le péché. Vous savez, ces sacrifices qu'il fallait renouveler tous les jours, tous les mois, tous les ans, chaque jour que Dieu faisait. Mais elle le faisait en attendant que soit offert le sacrifice parfait et définitif, en attendant la croix, en attendant la venue de Jésus. Avec Christ, enfin, la grâce s'affiche au grand jour. Elle couvre les croyants de l'Ancien Testament. Elle couvre les croyants du Nouveau Testament. Elle s'offre aux Juifs. Elle s'offre aux Grecs. Elle s'offre à tous ceux, à toutes celles qui croient en Christ et qui l'accueillent vraiment. Et elle les fait devenir enfants de Dieu, adoptés par le ciel. Celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous. Nous avons vu sa gloire, dit Jean. Nous avons vu sa gloire. Lui l'a vu de ses yeux. Il l'a entendu de ses oreilles. Il l'a touché de ses doigts, dit-il en 1 Jean 1, versets 1 à 2. Comme ses collègues. Touché, entendu, vu. Nous avons vu sa gloire. N'est-ce pas stupéfiant, ça ? Un homme fatigué qui s'assoit au bord de la route, le visage trempé de sueur, les pieds encroûtés de poussière. Un homme qui demande de l'eau à une femme peu fréquentable, Jean 4. Nous contemplons sa gloire. N'est-ce pas stupéfiant ? Un homme qui meurt en plein soleil, le corps lacéré de coups, un homme dont les mains clouées ne peuvent même pas chasser les mouches qui bourdonnent autour de sa tête. Nous avons contemplé sa gloire. N'est-ce pas stupéfiant ? Un homme qui brise les scellés de la mort. Un homme qui dit aux femmes qui viennent le trouver au cimetière, « Vous serez mes témoins, portez la bonne nouvelle, vous les femmes. Levez-vous, allez dire à mes frères, vous les premières. » Un homme qui mange avec ses amis, qui leur prépare le barbecue, qui accepte leur adoration en leur montrant ses cinq plaies, qui les envoie comme ses témoins pour tous les pays du monde, pour tous les siècles de l'histoire. Nous avons contemplé sa gloire. L'apôtre Jean le dit, les autres apôtres le disent aussi. Et nous aussi, d'une certaine manière, dans les pages de l'Évangile, avec l'aide de l'Esprit, au cœur de notre histoire tumultueuse, quand nous sommes dépassés, quand nous sommes submergés, quand nous sommes perdus à cause de nos péchés, nous contemplons sa gloire. Voilà le cœur de l'Évangile, mes amis. Oubliez tout le reste, c'est de la garniture. Voilà le cœur de l'Évangile. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, il nous offre d'être adoptés par le ciel, Jésus-Christ, d'être réconciliés avec Dieu, d'être pardonnés, restaurés, relevés. Voilà ce qu'il nous offre. Alors, amis chrétiens, avec quelques kilomètres au compteur, qui avaient entendu mille fois ce passage et d'autres, amis chrétiens, soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Soyez-en heureux. Profondément heureux. Amis qui êtes peut-être en recherche, ne lâchez pas le morceau. Surtout, ne lâchez pas le morceau. Prenez le temps de le contempler. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de tourner dans tous les sens, tout ce que vous lirez dans l'Évangile de Jean et ailleurs. Et puis à la longue, vous devez vous situer. Forcément, à un moment, vous devez vous situer. Soit du côté de ceux qui l'ont rejeté, soit du côté de ceux qui l'ont reçu. Et puis vous, amis, qui peut-être avez trop longtemps attendu, venez à lui. Venez à lui. Aujourd'hui, dans la repentance, dans la foi, accueillez sa grâce, accueillez son pardon, accueillez sa restauration pour commencer ce 5 décembre 2021, la vie nouvelle. Dans un instant, chacun disposera d'un temps de silence pour prier, silencieusement, pour répondre à Dieu d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vous qui savez. Ne laissez juste pas passer l'occasion. Et puis après, avec mes amis de Hortus, nous resterons, nous serons à disposition. Thierry Terra, qui est aux manettes ce matin, sera aussi avec nous. Si vous souhaitez un temps d'échange, un temps de prière, un temps d'écoute, si vous avez besoin de déposer des fardeaux, ce n'est pas la confession, hein. C'est juste un moment où on veut être ensemble. Avec mes amis d'Hortus, avec Thierry, Célina, ma collègue et moi, on sera là. N'hésitez pas à venir nous voir. Je vous invite à un temps de prière silencieuse. Cher Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous pouvons passer devant toi, la possibilité aussi que nous avons de nous remettre en question. Nous voulons le faire humblement les uns et les autres. Qu'on soit chrétien et fier et heureux, qu'on soit en recherche, ou qu'on soit juste dans le manque de toi parce qu'on touche nos limites et qu'on réalise qu'on a besoin de salut et de vie nouvelle. Alors on te le dit encore une fois avec nos faibles mots, mais finalement l'attention elle n'est pas sur nous, elle est sur toi. Tu es le Dieu sauveur. Tu es le Dieu sauveur. Et nous t'aimons. Amen. La vie d'une église, c'est le culte, bien sûr, comme nous venons de le vivre, et nous en vivrons d'autres ces prochains dimanches. Vous êtes toujours les bienvenus pour le culte dimanche prochain. C'est ma collègue Célina qui assurera la prédication. La vie de l'église, c'est aussi ce qui se passe autour, les autres jours, après le culte. Et puis j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait qu'à défaut de pouvoir servir le café à l'intérieur, nous proposons en trois lieux ce matin un jus de pomme chaud, et je dis un très grand merci à Claire-Lise et son équipe. On pourra se retrouver sur le perron, devant la chapelle ou en bas du bâtiment à l'extérieur pour boire un jus de pomme chaud et changer encore un peu à l'intérieur. Vous le savez, nous ne pouvons plus le faire. Dans quelques jours, ce sera le camp de ski pour cet été. Et cet été nous informe qu'il y a la possibilité de participer au camp de ski en offrant des denrées. Il y a toutes les infos, vous pouvez vous servir à la sortie, là, dans le foyer, si vous souhaitez montrer votre solidarité avec cet été. Jeudi soir, nous avons la rencontre des deux conseils, le conseil de l'église de Mérin et celui de la paroisse protestante de Mérin. Et puis vendredi 17 décembre à 14h30, la rencontre du fil d'argent, nos aînés. Il y a le flyer qui est affiché ou qui va être affiché. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire auprès de André ou auprès de Marianne. Vous pouvez aussi venir nous voir, Célina ou moi. Rencontre du fil d'argent le 17 décembre avec le formidable duo Albedo. Amis seniors, n'hésitez surtout pas à y participer, ça va déchirer. Et puis, j'aimerais vous inviter à vous lever pour la parole d'envoi, la bénédiction. Que le Dieu proche et aimant, qui s'est manifesté en la personne du Christ, vous accompagne, vous restaure, vous sauve, vous réjouisse. Sa grâce et sa paix sont proposées en abondance. Accueillez-les pour la suite de la route, qu'ils soient votre force et votre paix. Amen.